Attention, bonhomme, là c'est du sérieux, on touche à Tonton Balzac. Le Tupac Tourangeau, le gros tarbat qui bafferait comme 12 et sniffait son petit expresso par citerne.
En 2016, Jean Rochefort était encore de ce monde et nous enchantait de sa gouaille résumant les classiques entre Titi Parigot et Jeune de banlieue. Les bolosses des belles lettres sur Canal+. Là, c'était au tour du Père Goriot. Bonjour et bienvenue dans cette 7e visite du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, suite et fin de notre visite à Balzac et sa comédie humaine, où nous verrons qu'il y a pas mal de liens entre sa vie et son œuvre. La dernière fois, nous l'avions laissé alors que sa carrière commençait à s'envoler. Ah, ça, il ne chôme pas.
Si vous saviez comme je travaille, je suis un galérien de plumes et d'encre, un vrai marchand d'idées.
Il se dépense autant qu'il dépense. Lui qui se fait plus de têtes que de recettes, retrouvons Simenon en 60 pour la télé française.
Tu veux, ma chère sœur, des détails sur mon aménagement et ma manière de vivre. En voici. J'ai répondu à maman elle-même sur les achats. Mais tu vas frémir, c'est pique un achat. J'ai pris un domestique. Un domestique, mon frère, y penses-tu ? Celui de M. Nacquart se nomme Tranquille. Le mien se nomme moi-même. Lorsque je suis éveillé, je sonne moi-même et moi-même fais mon lit. Moi-même ! Quoi, monsieur ? J'ai été piqué cette nuit. Regardez donc s'il y a des punaises. Monsieur, il n'y a point de punaises. Taisez-vous, raisonneur. Et il se tait. Mais c'est charmant, un domestique comme cela.
Il se fait un nom et pas mal d'amis, dont Victor Hugo, Lamartine, Georges Sand et le jeune Théophile Gautier, qui va écrire un temps dans ses journaux éphémères. En 1999, Olivier Barrault présentait la réédition au Castor Astral du Balzac de Gautier, l'un comme l'autre, haut en couleur. Jugez plutôt.
Nos débutants arrivent chez le grand homme, qui les reçoit en robe de chambre et leur offre à déjeuner. Balzac, se voyant si enjoué, ce moderne si coloré comme l'écrit Gautier, qui déborde d'enthousiasme.
Il nous prêchait une étrange hygiène littéraire. Il fallait nous cloîtrer et surtout vivre dans la chasteté la plus absolue. Toute la concession qu'il put nous accorder fut de voir la personne aimée une demi-heure chaque année.
Chose impossible pour Simenon, un donjon du XXe siècle, connu et se vantant de ses très nombreuses conquêtes d'une heure jusqu'à cinq par jour.
En revanche, il permettait les lettres parce que cela forme le style. Ça expliquerait-il, chez cet homme qui ne peut pas faire ce qu'il veut de ce gros corps, qui se sent handicapé, ce besoin de gloire, d'argent, de puissance. Il veut surmonter ce handicap physique, coûte que coûte. Et surmonter quelque chose, c'est généralement aller beaucoup plus haut que la moyenne. Aller jusqu'à la moyenne, ça ne suffit pas. Ça ne le venge pas non plus de son enfance. Ça ne le venge pas de sa médiocrité à l'école. Ça ne le venge pas de sa solitude. Il faut vraiment qu'il crève le plafond. Et quel autre moyen de crever le plafond pour lui que d'écrire la comédie humaine ?
Il y a toute la société de l'époque dans son monument littéraire, à commencer par les ouvriers. À Vendôme, lors des fêtes à Balzac en 80, Gérard Tavera pour France 3 Orléans.
En entendant ces gens, je pouvais épouser leur vie. Je me sentais leur guenille sur le dos, leurs désirs, leurs besoins, tout passait dans mon âme. Je m'échauffais avec eux contre les chefs d'atelier qui les tyrannisaient ou contre les mauvaises pratiques qui les faisaient revenir plusieurs fois sans les payer.
Il s'est acharné à dépeindre dans ses œuvres les mœurs de ses contemporains et à porter une attention particulière à la bonne société parisienne, un entre-soi grouillant d'arrivistes qu'il décrit avec une cruauté mêlée d'avidité. Mais la ville des opportunités est aussi celle des revers de fortune.
Et on pourrait dire que dans ses romans, ça sent le vécu. Après cet extrait du court doc « Le Paris de Balzac » pour Arte en janvier dernier, retour au château de Saché où il ne cesse d'écrire et d'envoyer des manuscrits pour ses éditeurs.
Ma bonne mère bien-aimée, arrivée à bon port, travaillant comme un cheval et bien fructueusement. Je suis mieux, plus reposé et dès le deuxième jour, j'ai trouvé la plus grande facilité de travail. J'estime... Il me faut 10 jours pleins pour achever le Père Goriot et Séraphita. Et si je le peux, je donnerai un coup d'épaule à César Birotteau. Tu recevras, par une boîte qui partira vers jeudi, le manuscrit du Père Goriot. Songe que c'est précieux, unique, et prie Madame Evra de le serrer dans sa commode plutôt que de me perdre cela. Car on m'a déjà perdu le traité Ricourt. et prend toutes les précautions imaginables, car c'est une œuvre plus belle encore que Génie Grandet. Du moins, j'en suis plus content.
Or donc, où se passe l'histoire du père Goriot ?
Ça se passe dans la turne de la donzelle Vauquer, avec une bonne brochette de losers qui zone à balle et se tape des ouinges.
Je traduis, on est dans une pension, une sorte de colloque d'un immeuble entier, avec des gens qui rament pour s'en sortir et des jeunes qui fument plutôt du hashish ou de l'opium qu'autre chose tout aussi peu recommandable. Et lors des repas pris en commun, dans l'adaptation de 45.
Mangez ! Eh ben, père Goriot, vous avez fini de renifler mon pain ? Fermez donc plutôt la porte, rendez-vous utile. Goûtez-moi le salmi. Servez-vous bien.
Monsieur Goriot, c'est une dame qui demande après vous.
La vertu sort par une porte et le vice par l'autre.
Une dame. Appelez ça une dame.
Vous avez vu ses yeux s'allumer ? Il est clair que ce vieux galantin s'est ruiné pour ces femmes-là.
Ces femmes-là, combien sont-elles donc ?
Trois, quatre,
cinq !
Cinq ?
Plus peut-être. Oh. Je les ai vues, émises comme des reines, avec cheval et voiture. Des femmes qui mettent des 10 francs à un seul chapeau.
Jamais on ne me fera croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Plus tard, vous saurez qu'il s'y rencontre ce qu'on appelle des hommes à passion.
Ah.
Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs.
Vos insinuations sont blessantes, monsieur Vautrin.
Blessantes.
Mais je mettrai le haut là, à ces saturnales. Et tout de suite, ma pension n'est pas un mauvais lieu.
Et de Gloria, madame Fouquet.
De Gloria ? Sylvie, de Gloria.
Pour savoir ce qu'est un Gloria, en dehors de la messe, direction une pâtisserie de Vendôme, toujours en 80.
Alors nous avons créé le Gloria, qui est un entremets au café, parfumé au cognac, qui ressemble à ce que buvait Vautrin dans la pension Vauquer tous les jours. Il pouvait se faire aussi avec les gnôles ordinaires, ça dépendait de la qualité de celui qu'il consommait à l'époque, et ça s'appelait toujours un Gloria.
Pour Anne-Marie Baron, Balzac
introduit ses héros, qui sont des doubles de lui-même, tous. Tous les jeunes gens qui montent à Paris sont des doubles de Balzac.
Façon, je me voyais déjà, tel ce jeune arriviste.
Aussi Rastignac, un minot qui découvre Paname et qui veut débloquer ses trophées PS4. Façon gros daron de la réussite sociale. Il y a aussi le père Goriot, une vieille cracotte beurrée qui se fait racketter par ses deux pisseuses qui lui tiennent à peu près ce langage. Aboul Lamaï, le vieux, Anou les escarpins Moumout et le pchit Cacharel. Car telle est la puissance du caramel.
En clair, pour s'élever dans la société, les deux filles s'emploient d'une façon ou d'une autre à dépouiller consciencieusement et avidement leur père.
Monsieur Goriot est dans sa chambre.
Oui, madame, vous pouvez monter. Ah, c'est au troisième étage à présent.
Adaptation télé par Jean-Daniel Verheg en 2004 avec, dans le rôle titre...
Bonjour, mon père.
Nasie, Nasie, qu'est-ce que tu as ?
Tout de suite.
Parle, dis-moi vite, sinon j'en mourrai.
Mon ami a perdu au jeu une somme énorme qu'il n'a pas, vous non plus. Alors j'ai voulu le sauver, j'ai disposé de biens qui ne m'appartenaient pas.
Les diamants de ta belle-mère ?
Oui, je les ai vendus.
Mon Dieu, c'était donc vrai ?
Mon mari a tout su. Hier, il m'a fait appeler dans sa chambre, il m'a demandé où sont les diamants. J'ai répondu chez moi, je crois.
Et lui m'a dit non, ils sont là, sur ma commode.
Il les avait rachetés ?
Oui, sans me dire. Quelle honte.
Et alors ?
Il m'a demandé est-ce que l'un de nos deux fils est de moi. Je lui ai dit où il est né. Puis il m'a fait jurer de signer la vente de mes biens quand il me le demanderait.
Ah non, ne signe pas. Ne signe jamais ça. Je te défendrai, moi. Je te défendrai contre le monde entier.
Encore 12 000 francs à payer. Malgré les diamants ? Oui, sinon mon ami serait mis en prison.
Moi, j'ai rien. J'ai plus rien. Ah si, le couvert que j'ai gardé. Tenez. Mais qu'est-ce que ça peut valoir, ça ?
Qu'avez-vous fait de votre capital ?
Ma rente ? Je l'ai vendue.
Pourquoi faire ?
Pour acheter un petit appartement.
Pour toi ? Ne va pas plus loin, ma pauvre Delphine, vois où j'en suis.
Tous les hommes ne ruinent pas leur maîtresse.
J'attendais mieux de toi, mais tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as toujours jalousée.
Mais si, elle t'aime !
Et toi ? Comment t'es-tu comportée avec moi ? Tu m'as renié. Tu m'as fait fermer toutes les portes du Faubourg Saint-Germain. Voilà ton ouvrage. 1000 francs après 1000 francs, tu lui as tout pris. Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai pu. Je ne l'ai pas reçu dans la rue pour ensuite venir lui lécher les mains. Adieu, je n'ai plus ni sœur ni père.
Tais-toi ! Taisez-vous ! Toutes les deux !
Anastasie, tu es monstrueuse.
Taisez-vous, je me tue devant vous !
Et oui, dans cette adaptation signée Jean-Claude Carrière, le père Goriot est Aznavour. Et comme souvent chez Balzac, la jeunesse aspire à s'élever dans la société comme l'aristocratie se conservait dans son cercle.
Une duchesse pouvait préparer sa robe pendant un mois pour assister à un de ses bals et pouvait lécher, comme dit Balzac, toute la boue entre son hôtel et un hôtel comme celui-ci pour se faire inviter.
Pour s'ouvrir une porte dans le faubourg Saint-Germain, la femme d'un banquier était capable de tous les sacrifices.
Ici se nouent les jeux d'influence, de pouvoir et de manipulation amoureuse, dont Balzac fait l'amère expérience. De sa relation déçue avec la duchesse de Castres découle un roman de vengeance. La duchesse de Langeais raconte la chute d'une coquette du faubourg Saint-Germain et dresse le portrait acerbe d'un microcosme gangréné par l'argent et l'étiquette.
À mesure que l'on monte en haut de la société, il s'y trouve autant de boue qu'il y en a par le bas. Seulement, elle s'y durcit et se dore.
Il est normal d'avoir envie de pénétrer dans un milieu qui vous rejette. Et c'est exactement ce qui arrive à Balzac.
Ici, je suis gêné par la vie de château. Il y a du monde, il faut s'habiller à heure fixe. Et cela semblerait étrange à des gens de province de rester sans dîner pour suivre une idée. Ils m'en ont déjà bien étranglé avec leurs cloches.
Même à la campagne, Balzac n'aime pas les convenances, mais sa plume cavale. Pour ses amis, avec pseudo et son œuvre.
Cher Pélican, je suis arrivé lundi à Assaché. Je me suis reposé mardi. Mercredi, l'on m'avait fait une partie de campagne et la tourelle m'avait si bien ravitaillé que jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai conçu les illusions perdues et j'en ai écrit les 40 premiers feuillets. Ce torrent de travail a porté sans doute le sang à la tête. Mais en ce moment, je vais beaucoup mieux. J'aurai, suivant toute probabilité, terminé les illusions perdues pour samedi prochain.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous éclairez les gens sur l'art, le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
L'ensemble de 7 romans formés par Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes voit évoluer la jeunesse qui tente sa place à Paris auprès de la bourgeoisie, la noblesse, des cercles de pouvoir, la presse, l'édition, le théâtre et 1000 sentiments. La dernière adaptation au cinéma vaut vraiment le coup, sauf pour la musique. Mais bon, Xavier Giannoli au micro de France Culture le 20 octobre dernier.
Alors il y a une phrase extraordinaire dans le roman. Je vais essayer de la citer sans me tromper. « Paris avait soulevé sa jupe pour montrer au jeune poète, comme à un adepte digne d'elle, sa monstrueuse nudité. » Et cette idée d'une littérature du dévoilement, d'un voile qu'on lève, d'une jupe qu'on lève, avec tout ce que ça a de violation de l'interdit, de désir, de peur, c'était au cœur du projet. Moi, ce que j'aimais en lisant Balzac, c'est son extraordinaire, surtout dans « Illusion perdue », générosité. À la fois, il est philosophe, anthropologue, il a le sens de la scène comme un grand dramaturge. Il y a une écriture qui vous embarque, qui est un... C'est une expression un peu bête, mais en même temps, elle exprime bien. C'est un feu d'artifice. Voilà. Et donc, moi, j'ai voulu essayer de capter cette énergie-là.
Je crois que le temps est venu de baptiser Lucien authentiquement. Un genou à terre. Brave et fier chevalier, sans peur et sans principe.
Sans aucun principe.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Un tel baptême n'est ni sacrement ni consécration ad vitam aeternam. Et Lucien, qui se croit arrivé, va vite déchanter, très vite même. Dès le début, en fait.
Mais pour intégrer le beau monde, encore faut-il parler le même langage. Près des grands boulevards, l'Opéra Comique est l'un des endroits où Rastignac vient faire ses preuves. Repère de la haute bourgeoisie et de la noblesse qui s'y rend jusqu'à 4 fois par semaine, le théâtre est une arène impitoyable où le spectacle se déroule autant sur la scène que dans la salle.
Ces loges étaient vraiment le lieu du paraître. On y exhibait ses belles toilettes, on y exhibait ses amants, on y exhibait ses amis. Et effectivement, faire partie d'une coterie, c'était être admis dans la loge d'un personnage influent.
Dans ce monde où les petites choses deviennent grandes, un geste, un mot, perdent un débutant.
Dans Illusion perdue, Lucien de Rubempré fait sa première apparition à l'Opéra Comique, d'abord dans un habit qui n'est pas adapté. Il est fagoté comme le singe d'un savoyard, dit Balzac. Et en plus, il ne maîtrise pas du tout les codes puisqu'il montre quelqu'un du doigt, ce qui est vraiment la chose à ne pas faire. Et évidemment, ce geste va lui faire perdre toute crédibilité, sa maîtresse, ses amis, et il va se retrouver tout seul à Paris. Alors moi, je suis persuadée que Balzac, au début, n'a pas maîtrisé les codes.
Et question amour, chez Balzac, c'est pire que pour le Lucien des Illusions perdues. Ça commence avec un Œdipe mal digéré, voire pas du tout.
Son premier amour, Madame de Berny, est une femme de 43 ans, l'âge exact de sa mère. Elle a un mari et elle a 9 enfants.
Là, c'est la version télé de 66. À Angoulême, le jeune Lucien Chardon s'embarque dans une relation cuite d'avance avec Madame de Bargeton, mariée et largement son aînée. Ah, et Lucien, c'est Yves Régnier, plus connu par les seniors comme commissaire Moulin.
Vous venez d'être impertinent, Lucien, mais je vous excuse. Vous venez d'être injuste aussi, et là, ma peine reste vive. Ainsi, je ne vous aime pas, comme c'est mal. Toute cette vigilance pour vous guider, toute cette tendresse pour vous soutenir, toute cette émotion pour vous admirer. Tout cela, ce n'est rien. Ce n'est pas l'amitié la plus haute qu'une femme comme moi puisse vouer à un jeune homme comme vous. Mais que désirez-vous de plus? Quelle autre preuve qui ne soit dégradante pour l'âme? Vous et moi, nous sommes différents du commun. Voudriez-vous que nous nous abaissions à agir si communément?
Pardon.
Enfant, cher enfant, n'étais-je pas donné un gage de notre union toute pure, mais si forte?
Louise.
Personne d'autre que toi n'a utilisé ce prénom. Il est pour toi, toi seul. Que demandes-tu de plus?
Ta confiance. Toute ta confiance.
Soit.
D'ailleurs, d'après Simenon, ce qu'aimerait Balzac, ce sont...
des femmes maternelles, indulgentes, surtout. Et enfin, des femmes qu'il admire. Car il n'a jamais connu ni l'indulgence, ni l'admiration.
Car en plus, ce que cherche Lucien, c'est que le roi lui reconnaisse la noblesse venant de sa mère, de Rubempré, ce qui lui ouvrirait les portes des cercles influents, comme Honoré puisse devenir enfin de Balzac, particule dont il ne peut jouir pleinement.
Et tu es entré tout préoccupé tout à l'heure. Est-ce grave?
Ma sœur va se marier. Elle épouse David Séchard, un garçon merveilleux, mais n'allez-vous pas trouver cette alliance indigne de ma destinée, si le roi un jour me fait à nouveau comte de Rubempré, et...
Pauvre Lucien, il a peur d'être grondé. Mais où est le mal? Et que me fait ta famille où tu es une exception? Je t'aime, Lucien. C'est là tout ce qui compte. Sois grand. Sache conquérir la gloire. Je serai près de toi.
Tout le faubourg n'est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies.
Il va écrire à sa sœur à ce moment-là. Depuis hier, j'ai renoncé aux douairières et je me rabats sur les veuves de 30 ans. Envoie toutes celles que tu trouveras à mon adresse à Paris. Les envoyer franches de porc, sans fêlure ni soudure, qu'elles soient riches, aimables. Pour jolies, je n'y tiens pas. Le vernis passe et le fond du pot reste.
Traduction, fini les cougars, à moi les femmes de mon âge. Bon, c'est pas fait, loin de là. Pourtant, depuis longtemps, l'idée du mariage, de la convenance sociale et du paraître le ronge de tous côtés, sans que ce soit pour lui... Jugez plutôt.
Cette Madame Anska, l'étrangère, qui lui a écrit en 1831 déjà, eh bien, il va la poursuivre. À cette époque, elle était mariée. Il est allé la voir à Neuchâtel quand même. Il va courir une fois qu'elle est veuve, la voir en Ukraine. Au premier voyage, elle sera hésitante. Il revient, il repart, il insiste encore.
Et mon amoureux, vous ne m'en parlez plus?
Oui, à propos, que devient-il?
Il m'inquiète, il se dérange.
Bon, la cousine bête, en 1846, où Elisabeth a pour seule occupation, par jalousie, de pourrir la vie de la famille de sa cousine, devenue baronne, à commencer par sa fille Hortense, bientôt comtesse, c'est encore un écho à la vie de Balzac, avec l'amour de loin qui plane plein est. En 64, Hortense et Daniel Lebrun, qui arrivent de la Comédie-Française, et bête, c'est Alice Sapritch, qui sera la duègne de La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès.
S'il ne s'agissait que de le charmer au point de l'emporter sur les plaisirs de Paris, je connais mon pouvoir. Mais il parle de retourner dans sa Pologne natale.
Mais comment sais-tu cela?
Comment veux-tu que je le sache? Par lui. Une personne à qui il appartient par les liens les plus sacrés, sa femme, lui a écrit hier pour lui demander de revenir. Ses histoires politiques se sont arrangées, il veut partir. Il serait bien bête de quitter la France pour la Russie.
Lisbeth, c'est ta faute!
Quelle est ma faute en cela, Adeline?
J'ai tort, je te demande pardon.
Hortense.
Voilà donc ce que vous me cachiez. Tu me pardonneras, Hortense, d'avoir inventé cette épouse polonaise. Avoue que ta punition est bien légère. Comment m'as-tu volé mon amoureux?
Tu te rappelles que tu nous as parlé de ton amoureux? Personne ne pouvait y croire, moi pas plus que les autres. Et puis, la curiosité.
Pour savoir comment était tourné celui qui pouvait aimer une vieille chèvre.
Je devais être un monstre de vieil employé à barbe de bouc.
Ces petites filles, ça croit qu'on ne peut aimer qu'elles.
Tu te rappelles? Je t'ai promis mon cachemire à la condition que tu me prouves que Venceslas n'était pas une invention. Tu m'as dit qu'une de ces sculptures était exposée chez un marchand de bric-à-brac de la rue du Doyenné, tout près de chez toi. Un Samson déchirant un lion. J'y suis allée avec maman. Nous avons acheté Samson, demandé qu'on nous envoie l'auteur, car on pourrait lui procurer des commandes. Et ben c'est cela, c'est venu. Je me suis aperçue que je l'aimais déjà, sans le connaître. Ma mère et mon père ont autorisé ses visites.
Nous étions persuadés, Hector et moi, que tu ne te marierais jamais. Tu as refusé 5 parties quand tu avais 20 ans de moins.
Des employés, des capitaines qui ressemblaient à des postiers.
Tu ne pouvais pas être un obstacle.
Donne-moi le cachemire.
Honoré repart à la charge de sa polonaise entre Ukraine actuelle et Russie d'alors.
Il essaye encore, et cette fois-ci c'est le tsar en somme qui s'en mêle, parce que une russe qui épouse un étranger est obligée de vendre ses terres dans les 6 mois après son mariage. Or évidemment la famille Anska n'a pas du tout envie de faire ce sacrifice.
Mais lui en fait beaucoup pour elle. En 59, la télé nous fait visiter la maison qu'il acquit à Passy, à 2 pas de la maison de la radio dans le 16e, et qui est toujours un musée à visiter et un lieu de calme grâce au jardin.
Les choses ont retrouvé leur place. La vie de Balzac, son cadre, et la table Louis XIII sur laquelle furent noircies les pages de la cousine Bette et du cousin Ponce fait face à nouveau aux vitrines où s'alignent les personnages de la comédie humaine. Vautrin, la tendre et pitoyable Jenny Grandet, le colonel Chabert. Ces ombres ont définitivement chassé les soucis que rappelle l'escalier secret par lequel Balzac, toujours en proie aux soucis d'argent, fuyait ses créanciers par la pittoresque ruelle Berton qui, Dieu merci, n'a pas encore changé.
En 1848, je ne m'intéresse à rien. Je commence à prendre en haine cette maison vide où tout est fait pour une absente. Cette maison, il vient de l'acheter avec l'argent et pour Madame Anska. Il l'a fait meubler comme un nid. Il ne pense qu'à ce nid et y revenir avec elle. Coûte que coûte, il veut y finir les séjours et il a l'impression qu'alors, enfin, il connaîtra la paix. Et il écrit « Travail, petit auteur de la comédie humaine, paie ton luxe, expie tes folies et attends ton Ève dans l'enfer de l'encrier et du papier blanc. » Il termine cette lettre par « Je ne crois plus à l'avenir.
Faut dire que son état de santé ne s'arrange pas. Déjà en pension à Vendôme, il était souvent malade.
C'est un enfer de douleur. C'est une horrible souffrance que celle qui n'a de siège nulle part et qui est partout. Le cerveau est voilé. Je perds parfois le sens de la verticalité qui est dans le cervelet. Or Balzac, qui fréquentait beaucoup les médecins, savait assez de quoi il parlait.
25 ans après, ça s'aggrave.
À 38 ans, mon esprit détraqué m'a conduit vers les eaux très fréquentées du suicide.
Et si c'était une dépression chronique ?
Je sors rarement, écrivait-il à 18 ans. Mais lorsque je divague, je vais m'égayer au Père Lachaise. Et là, tout en cherchant des morts, je ne trouve que des vivants.
Pas très joyeuse comme fin de cette 7e visite de la saison 5 du Panthéon décousu. Les podcasts sont à retrouver sur radioalpa.com et l'intégrale en écoute libre sur le Mixcloud de l'émission Le Panthéon décousu. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans Bourvil en 59 qui, avec tendresse, nous invite à fréquenter nos classiques de la littérature, toujours actuels, en livre comme en film. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa.
Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Vous avez affaire à la ville la plus complaisante qui soit dans le monde.
Monsieur Balzac, vous avez dû en voir luire. Monsieur Balzac, pour avoir tant de choses à dire et tous les détails du revers de la médaille, vous les connûtes trop bien pour pas pleurer un brin. C'est très bien d'avoir du génie, ça vous donne un but dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui a du talent. J'espère que vous étiez content, hein, monsieur Balzac, du côté de l'avenue Friedlan. Monsieur Balzac, vous avez encore un monument avec un autre au cimetière. On peut dire que vous êtes prospère et vous devez bien avoir en plus quelque part une avenue où des gens rient, où des gens jurent, comme dans la littérature.
Permettez de vous offrir un Gloria ?
Merci.